je suis médecin, je suis expert en cardiologie, j'ai travaillé dans des CHU français, j'ai été recruté par le CNRS pour conduire des travaux de recherche. Pour moi, c'est évident que le cholestérol est innocent, ennemi public numéro un, donc le cholestérol est l'ennemi, mais la solution, ne vous inquiétez pas, on l'a, ce sont les médicaments pour but de faire du business, hein. C'est vraiment un facteur de prédisposition aux thromboses. Et si ça favorise les thromboses, ça favorise les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026.
Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast 1000%, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, on va parler du cœur. On a la chance, le privilège de recevoir Monsieur Delors Géril. Donc déjà, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. On va parler du cholestérol, mais plutôt on ne va pas en parler, car on va voir que c'est un mythe qui est bien installé maintenant. On associe souvent les pathologies cardiovasculaires au cholestérol. On va avoir justement l'avis de Monsieur Delors Géril sur le sujet. Je suis accompagné de Pierre, de la team 1000%. On va parler justement du cholestérol, des pathologies et également des solutions à mettre en place dans notre quotidien. Donc déjà, un grand merci Monsieur Delors Géril encore une fois d'être présent aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît?
Me présenter. Ben, je suis médecin, je suis expert en cardiologie, j'ai travaillé dans des CHU français, j'ai travaillé au CHU de Genève en Suisse, j'ai travaillé dans un des plus grands centres de cardiologie nord-américain à Montréal, ensuite je suis revenu à Lyon et j'ai terminé à Grenoble, voilà. Entre-temps, j'ai été recruté par le CNRS pour conduire des travaux de recherche sur les maladies cardiovasculaires, sur la prévention des maladies cardiovasculaires, et on s'est plus particulièrement focalisé sur les problèmes de nutrition.
Donc c'est vrai que vous avez fait beaucoup de livres sur ce sujet. Moi notamment, j'ai eu la chance de lire votre dernier, « Comment échapper à l'infarctus et à l'AVC ». On va en parler justement aujourd'hui. Avant de commencer, on voulait vous parler du cholestérol. C'est vrai que vous critiquez beaucoup cette approche cholestérol dépendante par rapport à des pathologies cardiovasculaires. Quel est votre avis? Pourquoi on associe justement ce cholestérol a des risques sur la santé cardiaque? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette petite confusion qui règne malheureusement pour vous?
C'est pas une confusion, c'est quelque chose de très très bien organisé et qui a pour but de alors il y a eu plusieurs étapes, hein, mais qui a pour but de faire du business, hein, avec soit des aliments qui contribuent à diminuer le cholestérol, soit des médicaments qui contribuent à diminuer le cholestérol. Oui, j'ai écrit plusieurs livres là-dessus, et je ne sais pas si vous connaissez celui-là.
Donc le docteur Delors Géril, il montre « Cholestérol, mensonge et propagande » à l'écran.
Voilà, donc ça c'est un des premiers livres qu'on a écrit, qui a provoqué un certain nombre de controverses, mais en fait, jamais personne nous a dit à quelle page, à quelle ligne il y avait une erreur et il était scandaleux de ceci, cela. Donc c'est quelque chose qui est très bien structuré et si vous voulez, c'est pour nous, c'est très important parce que quand est arrivée la crise de la Covid, on était préparé. On était préparé parce qu'on avait vécu la crise du cholestérol et des statines. On a vu comment l'industrie, comment les sociétés savantes, comment les gouvernants et les autorités sanitaires, et ça c'est dans tous les pays, pouvaient prendre quelque chose. Vous le vivez à l'heure actuelle aussi avec la maladie des vaches. Hein, et voilà, on fait semblant de faire de la science et en fait on n'en fait pas du tout. Au contraire, on met de côté la science et on privilégie des approches idéologiques. Et là, comme il y avait des médicaments à commercialiser, il fallait absolument faire du cholestérol. L'ennemi public numéro un, donc le cholestérol est l'ennemi, mais la solution, ne vous inquiétez pas, on l'a, ce sont les médicaments anti-cholestérol. Ça, c'est la dernière phase hein, de la controverse.
Donc, il n'y a absolument aucun rapport entre les deux, entre un cholestérol qui serait élevé et un risque élevé de pathologie cardiovasculaire. Pour vous, ce lien-là, il est faux ? S'il y a un consensus scientifique vis-à-vis de ça ?
Non, justement pas. Il y a, pour moi, c'est évident que le cholestérol est innocent, mais il y a deux groupes qui s'affrontent. Mais ça date du XXe siècle, hein, qui s'affrontent, les uns disant le cholestérol bouche les artères, il faut l'abaisser. Alors au départ, c'était avec un certain nombre de médicaments qui abaissaient le cholestérol, mais qui n'avaient aucun effet sur les maladies cardiovasculaires. Ensuite, il y a eu des aliments. Hein, ça a été le triomphe de l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de soja, etc. Et là aussi, il y a eu des études montrant qu'on arrivait à diminuer le cholestérol en faisant consommer ce type d'huile à la place du beurre, par exemple. Hein. Il y avait les margarines, etc. On diminuait le cholestérol, mais ça n'avait aucun effet sur le risque cardiovasculaire. Et puis finalement, il y a eu l'avant-dernière classe de médicaments qu'on appelle les statines. Et là, évidemment, avec tous les échecs qui précédaient, tous les médicaments qui n'avaient pas marché, là, ils ont monté quelque chose de complètement artificiel pour dire, voilà, avec les statines, on n'a jamais autant diminué le cholestérol. Et enfin, nous avons trouvé la solution des maladies cardiovasculaires. Alors, c'est faux. C'est pas vrai. Quand on analyse scientifiquement les études et ce livre y a contribué, alors vous constatez que c'est quelque chose de complètement artificiel. Je vais vous dire plus. Encore après les statines, il y a eu une nouvelle classe de médicaments, encore plus efficace que les statines. Ça s'appelle les anti-CETP, voilà, cholestérol, ester, transfert, protéines, etc. Alors là, c'était la merveille des merveilles, parce que non seulement ça diminuait le cholestérol, le méchant, comme on dit, ouais, c'est des concepts complètement stupides, hein, c'est du Walt Disney, hein, le méchant, le gentil, attendez là, pour un scientifique, c'est ridicule. Bon, alors, donc avec ces anti-CETP que je décris dans le livre, hein, non seulement on avait une radicale diminution du méchant cholestérol, mais on avait une augmentation de 100% du supposé bon cholestérol. Eh bien, ces médicaments n'ont jamais été commercialisés. Il y a eu 5 essais cliniques avec différentes molécules de la même classe de médicaments, et ils n'ont jamais été commercialisés parce que ça ne marchait pas du tout. Et ils n'ont pas osé cette fois-ci tricher, parce qu'entre-temps, de l'orgerie et d'autres que moi dans d'autres pays, au Japon, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, parce que je suis pas seul, hein, je suis le principal francophone, mais dans d'autres pays, il y a d'autres gens qui disent exactement comme moi, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'artificiel. Et là, avec ces nouveaux médicaments, les anti-CETP, ils n'ont pas osé masquer les choses, ils n'ont pas osé mentir. Vous voyez et puis entre-temps, il y a eu d'autres affaires, il y a eu le Mediator, vous voyez, en France, mais dans d'autres pays, il y a eu d'autres problèmes majeurs, les coccibles, etc. Donc on savait, on avait alerté, attention, il ne faut pas les croire, ils sont capables de vous raconter n'importe quoi. Et pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de la Covid ? Et pas parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec la Covid. Mais là, les experts ont été pris au dépourvu. Moi, je n'ai pas été pris au dépourvu du tout. On a fait croire aux gens qu'on avait des vaccins efficaces. Vous voyez, c'est à nouveau une construction idéologique absolument extraordinaire. Ces vaccins ne marchent pas, ils sont toxiques en plus. Et on a fait croire aux gens, Et là, vous aviez à nouveau un ensemble de gens, les industriels, les supposés experts, mais ils ne sont pas experts du tout, hein. Il n'y avait pas d'experts des vaccins anti-Covid, ça n'existait pas. Il y avait les autorités sanitaires, il y avait les gouvernants, il y avait tout ce qu'on veut. Et on a fait croire aux gens qu'on avait des vaccins. Et si vous n'étiez pas d'accord, et si vous disiez « Attendez, moi je ne suis pas d'accord avec les études qui nous sont présentées », vous étiez immédiatement censuré. Vous voyez, sur YouTube, c'était impossible de s'exprimer. Donc il n'y avait que des gens favorables. Mais en science, il y a toujours des controverses. Et on ne doit pas interdire les controverses. Chacun apporte ses arguments et on essaye d'arriver à un consensus. Mais là, que ce soit avec les vaccins anti-Covid, que ce soit avec les médicaments anti-cholestérol ou avec les aliments anti-cholestérol, c'est impossible. C'est impossible d'arriver à un consensus parce que les gens s'opposent.
Et ce que je vous demandais, je suis allé sur le site de la Fédération française de cardiologie et la Société française de cardiologie. Et moi, pour vérifier s'il y avait eu ou non un lien entre le cholestérol et les pathologies cardiovasculaires, pour eux, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est clairement établi que pour eux, il y a un lien entre les deux. Donc, ça m'embête un peu quand même quand je vais sur des sites qui sont sérieux, c'est représentatif de la profession. Il y a quand même un consensus de la profession, en tout cas un consensus... peut-être administratif, peut-être pas, mais
je vous arrête. Vous voyez, pendant la Covid,
arrêtez-moi.
Oui, pendant la Covid, c'était tellement extraordinaire, vous voyez, de ce supposé consensus. Oui, mais on donnait pas la parole à ceux qui étaient pas d'accord. Mais vous avez vécu la même chose avec le médiateur. Vous voyez, il y avait des gens qui il y avait très peu, hein, une pneumologue à Brest, hein, qui disait, attendez, là, il y a un problème avec 35 ans de commercialisation sans que les sociétés savantes que vous citez, la Fédération de cardiologie, la Société française de cardiologie, ne donnent l'alerte. Et tout d'un coup, c'est devenu un poison et Servier a été condamné. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment on peut garder les yeux fermés sur des choses évidentes? Et normalement, on devrait m'inviter dans des réunions pour rediscuter ces questions. Je suis le seul cardiologue en France qui publie des livres sur la prévention cardiovasculaire. Et on m'a pas poursuivi devant les tribunaux parce que je disais des bêtises. Non, il faut surtout laisser les choses en place, ne pas discuter, ne pas soulever. Ne surtout pas donner la parole à ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, vous me parlez de la Fédération de cardiologie, c'est complètement dépendant de l'industrie pharmaceutique. Il y a des gens là qui sont payés payés par qui? Vous voyez, c'est payé par qui? La Société française de cardiologie ne fonctionne que grâce aux cadeaux de l'industrie pharmaceutique. Et comme dit le proverbe, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Vous voyez, pourquoi le médiateur donnait des complications cardiovasculaires? Normalement, la Société française de cardiologie, les membres, les professeurs, les universitaires auraient dû donner l'alerte. C'est pas une pneumologue de Brest qui était la mieux placée pour donner l'alerte. Vous voyez, c'était eux. 35 ans sans rien dire. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient tous reçu des cadeaux. Tous. Vous voyez, c'est s'il y a un industriel qui est généreux en France, c'est Servier. Voyez, il donnait des cadeaux à tous. Alors, vous voyez, une fois que vous avez reçu des cadeaux, vous êtes pris au piège. Vous pouvez plus dire, attendez, là, monsieur Servier, je suis pas d'accord. Ben, si t'es pas d'accord, là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Vous voyez, et là, avec les vaccins anti-Covid, c'était absolument évident. Et vous avez vu comment les gens se sont disputés à propos de médicaments inutiles, la fameuse hydroxychloroquine. Vous voyez, c'est un médicament, pourquoi il ne serait pas utile? Eh bien, il faut faire un essai clinique, il faut vérifier les choses, il faut faire de la science. Eh bien non, ni les uns ni les autres n'étaient capables de faire de la science à propos de médicaments que les uns préconisaient comme miraculeux et que les autres disaient ça ne sert à rien. Attendez, mais c'est quoi ce monde-là? Il suffit de travailler.
Donc, pour mieux comprendre pour nos auditeurs, le cholestérol, donc on comprend bien qu'il n'y a pas forcément de lien avec les pathologies cardiovasculaires. Donc, quel serait son intérêt? Est-ce qu'il y a des intérêts bénéfiques à avoir du cholestérol pour la santé? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ses vertus et ses bienfaits sur justement la santé?
Le cholestérol est indispensable à la vie, est indispensable à la physiologie. Et c'est évidemment, après avoir critiqué les statines et tous les médicaments, les régimes anti-cholestérol, eh bien, on nous a dit, montrez-nous qu'est-ce qui est utile, pourquoi et comment le cholestérol est utile. Alors voilà.
Boum. Donc, le docteur Delorgeril nous montre le titre de son livre « L'horrible vérité sur les médicaments anti-cholestérol, comment les statines empoisonnent ».
Voilà, et l'intérêt de ce livre, qui a des graphiques, des schémas, etc., c'est qu'il explique pourquoi le cholestérol est indispensable à la vie. Si vous n'avez pas de cholestérol, vous n'êtes pas viable. Hein, on le sait parce que certains enfants, certains fœtus, sont conçus avec des troubles génétiques qui font qu'ils n'ont pas assez de cholestérol, et ben il y a avortement, tout simplement. Et ceux qui arrivent, parce qu'ils ont quand même un petit peu de cholestérol à survivre, ils naissent avec de gros problèmes de santé, toutes sortes d'anomalies, le système immunitaire, le cerveau, etc. Donc, le cholestérol est indispensable, et je dirais presque que on a intérêt à ce qu'il soit assez élevé. Vous voyez, c'est complètement contraire aux théories actuelles. C'est presque frappant, vous voyez, mais le cholestérol, c'est très bien pour les neurones. C'est très bien pour le système immunitaire. C'est très bien pour les muscles. Vous voyez, bon, alors après, comment ça marche? Ben, c'est facile à comprendre. Hein. Le cholestérol, c'est le substrat à partir duquel nous fabriquons un certain nombre de substances absolument indispensables à la vie. Je vous donne un exemple. L'hormone du stress, le cortisol. Vous voyez, pas de stress et il n'y a pas de survie. Pourquoi? Parce que le prédateur, il peut pas attraper sa proie, donc il meurt de faim, et la proie ne peut pas s'échapper, il est toujours pris par le prédateur. Vous voyez, donc pour que les espèces survivent, il faut du stress, il faut du cortisol, et le cortisol, il est fabriqué à partir du cholestérol. Nous sommes des animaux venant de la mer. Vous voyez, on est né dans de l'eau salée. Et quand on est sorti de la mer, eh bien, on a intériorisé le sel. Nous sommes salés, on pleure, c'est salé, vous voyez. Et notre sang est très riche en sel. Le plasma est salé, etc. Alors, cette régulation du sel dans notre organisme, c'est une condition de survie absolue. Ça passe par des glandes, les surrénales, ça passe par les reins, évidemment. Mais il y a une hormone absolument fondamentale qui est l'aldostérone. Eh bien, l'aldostérone, elle est fabriquée à partir du cholestérol. Pas de cholestérol, pas de cortisol, pas d'aldostérone.
Pas d'œstrogène, pas de progestérone, pas de testostérone, pas de vitamine D.
Eh ben voilà. Bon ben, je vous laisse finir. Exactement, exactement. Voilà, vous avez tout compris. Hein. Vous fabriquez vos hormones sexuelles, donc vous permettez la reproduction de l'espèce à partir du cholestérol. Et c'est tellement important dans notre physiologie, mais on va pas y passer plus de temps, mais les membranes cellulaires sont des ensembles de lipides. Ce sont des acides gras, des phospholipides, mais ce sont des mosaïques fluides. Vous voyez, c'est une cellule et il faut la structurer un petit peu. Mais il y a des zones rigide dans les membranes cellulaires, et bien ce sont, on appelle ça des lipid rafts, des radeaux lipidiques, mais en fait ce ne sont pas des radeaux lipidiques, ce sont des radeaux de cholestérol. Vous voyez la confusion qu'il y a absolument extraordinaire. Si vous demain vous allez au laboratoire pour mesurer votre cholestérol, quand on va vous rendre des résultats, on va vous dire bilan lipidique. Eh oui, mais c'est pas un lipide, le cholestérol. Vous voyez, le niveau de confusion auquel on est arrivé, c'est un stérol. Et un stérol, c'est pas un lipide. Un lipide, c'est une substance qui est hydrophobe. Vous voyez, quand une substance est hydrophobe, mais votre huile d'olive et votre vinaigre, ils se mélangent pas. Vous voyez, c'est tellement évident. Donc, le cholestérol, c'est un stérol, c'est pas un lipide.
Mais pourtant, quand on regarde la définition de... Parce que je vous ai entendu le dire, donc je suis allé voir, parce que ça m'a énormément surpris. Je le suis encore. Hein. ouais. Et oui, je n'ai pas réussi à atterrir sur cette info. Pour moi, il reste classifié dans les lipides. Je vois pas pourquoi il le serait pas d'ailleurs. Bon, peut-être qu'on va perdre du temps là-dessus et c'est pas non, tout à fait essentiel.
C'est simple à comprendre. Il suffit de connaître la définition d'une graisse ou d'un lipide. Graisse et lipide, c'est la même chose. Hein. La graisse, c'est dans l'assiette et le lipide, c'est dans votre organisme. Bon, ben, quelle est la définition d'un lipide ou d'une graisse? C'est une substance hydrophobe. Voilà. Le cholestérol, il n'est pas hydrophobe. Donc, il est classé dans une autre catégorie par les chimistes. Oui, attention, parce que le physiologiste qui travaille avec l'industrie pharmaceutique ou le biologiste qui n'a pas réfléchi à ce qu'était le cholestérol, ben, on a l'habitude de le classer dans les lipides, donc on le laisse dans les lipides. Alors, pourquoi il y a cette confusion? C'est intéressant, hein, parce que le bon Dieu, il a utilisé le cholestérol pour le métabolisme des lipides. Ouais, donc les lipides sont hydrophobes, donc ils ne peuvent pas être en liberté dans le plasma. Le plasma, c'est de l'eau. Ouais, vous auriez des embolies de graisse si vous laissiez les lipides en liberté dans l'eau. En plus, les lipides, ce sont des acides. Ce sont des acides gras. Acides. Ouais, donc, nous avons une régulation du pH dans notre sang qui est très fine. Vous pouvez pas. Vous imaginez, je vais vous donner un exemple. Hein. Tous les jours, nous mangeons du cholestérol et nous mangeons des lipides, du gras, c'est-à-dire des acides gras. Ok. Alors, vous consommez en moyenne, hein, des gens comme nous, ça varie évidemment d'un sujet à l'autre, mais en moyenne, on consomme 500 mg. De cholestérol par jour, en imaginant que vous avez mangé au moins un œuf, etc. Je rentre pas dans les détails, mais en moyenne, voilà, vous êtes à 500 mg, souvent un petit peu moins. Donc, 0,5 grammes, ok? Eh ben, les mêmes personnes, en moyenne, consomment 50 grammes d'acide gras. C'est-à-dire 100 fois plus. Donc, vous imaginez que quand vous mangez vos repas habituels et que cette masse de lipides arrive dans votre tube digestif, puis est absorbée dans le sang, parce que c'est ça, ça passe du tube digestif dans le sang. Vous avez donc en moyenne 50 grammes d'acide gras, hein, qui rentre dans le sang. C'est impossible. Ça, vous auriez une telle chute du pH dans le sang que bon. Alors, le bon Dieu, il neutralise les acides gras. Et, il est sympa, le bon Dieu. Il nous a fourni deux types de substances pour neutraliser les acides gras. Je vais rester avec l'idée du cholestérol. Parce que ces deux substances sont, d'une part, le cholestérol et d'autre part, le glycérol. Vous voyez? Donc, on met jamais deux lipides collés l'un à l'autre. Vous voyez? C'est une autre démonstration que le cholestérol, c'est pas un lipide. Et alors, avec le cholestérol, chaque molécule de cholestérol neutralise un acide gras. Hein, et ça donne un ester de cholestérol. Et donc, vous pouvez dire, puisqu'il y a un lipide plus le cholestérol, et ben l'ensemble, un ester de cholestérol, ça donne un lipide. C'est un petit peu vrai, c'est un petit peu vrai. Sauf que c'est plus le cholestérol, c'est un ester de cholestérol, c'est autre chose. De la même manière que vous avez le glycérol, une toute petite molécule avec trois carbones, vous voyez, toute petite. Eh bien, cette simple molécule peut neutraliser trois acides gras. Vous voyez, c'est pour ça que l'on dit triglycérides. Dans votre bilan lipidique, on mesure les triglycérides. Mais en fait, ils ne mesurent pas les acides gras. Hein, allez voir dans n'importe quel site de biochimie quelle est la technique pour mesurer les triglycérides. Mais qu'est-ce que fait le biochimiste? Ce sont des robots qui font le travail maintenant. Ils commencent par éliminer les trois acides gras, vous voyez, et ils mesurent le glycérol. Et le glycérol, c'est pas un lipide. Vous voyez? Alors, on voit ici, c'est un bilan lipidique, mais en fait, on mesure le cholestérol, c'est facile à mesurer. On mesure le glycérol, c'est facile à mesurer, mais après avoir enlevé tous les lipides.
Pierre? Oui, je pense que ce sera intéressant que vous nous partagiez peut-être dans un second temps, parce qu'on parlera des marqueurs à tester. Qu'est-ce que vous pensez du profil en acide gras qui est souvent promu en médecine fonctionnelle? Peut-être on aura l'occasion de l'aborder. Je voudrais juste qu'on revienne sur cette idée de cholestérol, non pas que ce soit un lipide ou pas. Ça, on se laissera le temps de regarder ça, nous, de notre côté, pour bien digérer cette histoire. Mais les conséquences que ça aurait de faire baisser ce taux de cholestérol dans le sang, les conséquences que ça peut avoir justement sur les hormones sexuelles et ou la synthétisation de la vitamine D. Parce que finalement, le fait d'avoir un impact direct, de diminuer artificiellement via des statines cette teneur en cholestérol, ça va avoir un impact massif sur la santé globale de l'individu. C'est un impact transversal quand même.
Absolument, absolument. Mais en fait, ce que vous faites avec, par exemple, un médicament comme les statines, mais les anti-CETP aussi, vous agissez non pas sur le sang, vous agissez sur le foie. Hein, c'est expliqué dans ce livre. Hein. Ça bloque un système enzymatique, les statines, qui s'appelle l'HMG-CoA réductase, et ça bloque non seulement la synthèse du cholestérol, mais ça bloque aussi la synthèse d'un certain nombre de substances. Et ces substances sont indispensables à la fonction, à la physiologie du muscle. Vous qui êtes intéressé par le muscle, vous voyez, c'est quelque chose de terriblement toxique pour la mitochondrie.
Celui-là,
Non, moi je parle là des muscles. On peut pas, on pourrait y passer la journée, donc on va essayer de rester simple, hein, pour vos auditeurs. Voilà. Donc, et c'est expliqué dans le livre, hein, quand vous bloquez l'HMG-CoA réductase, en fait, vous bloquez le métabolisme des mitochondries. Mais évidemment, on n'est pas tous identiques, on est tous différents, on répond différemment, notre métabolisme est différent, les femmes ne sont pas des hommes, les vieux ne sont pas des jeunes, etc., etc. Et surtout, la toxicité de la statine sur les muscles et les ligaments est tellement forte que les médecins, quand ils commencent un traitement, très souvent, hop, ils diminuent après les doses. Parce que les gens se plaignent. Voyez? Et il y a même des gens qui avaient travaillé avec l'industrie pharmaceutique, chez des gens qui avaient l'habitude de faire du jogging. Eh bien, avec des doses faibles à moyenne de statine, eux-mêmes, hein, des statinophiles, était arrivé à la conclusion qu'un jogger normal, il perd 50% de ses capacités de jogger avec un traitement par statine.
Si ça a un impact sur la mitochondrie, c'est un impact sur la VO2 max, c'est ça que vous sous-entendez?
Oui, sur le muscle, sur la capacité du muscle à métaboliser les substances radicalaires produites lors de l'effort physique. C'est pas, bien sûr, ça va avoir un effet sur la VO2 max, mais c'est surtout la toxicité. La mitochondrie n'est plus capable de gérer les substances radicalaires que vous fabriquez lors d'un exercice physique. Alors c'est des coenzymes Q10, c'est des coenzymes qui sont fabriqués dans la même voie métabolique que le cholestérol, mais en amont, ce qui fait que vous aurez, avant d'avoir les effets sur la vitamine D, avant d'avoir les effets sur les hormones, etc., vous allez avoir les effets sur les muscles et sur les ligaments. C'est tellement fréquent.
Donc, on a bien compris que le cholestérol n'était pas lié aux pathologies cardiovasculaires, mais qu'est-ce qu'on pourrait conseiller alors à nos auditeurs qui peut-être déjà, j'aimerais bien qu'on détermine au niveau génétique et héréditaire, quels sont à quel degré, par exemple, j'ai un papa qui a fait un infarctus à l'âge de 45 ans, est-ce que ça, c'est potentiellement génétique? Quels sont les facteurs qui devrait m'inquiéter, sur quoi je peux tester, m'appuyer, est-ce qu'il y a des marqueurs? Qu'est-ce qu'on pourrait justement conseiller comme piste aux auditeurs pour faire de la prévention au niveau cardiovasculaire?
Alors, c'est pas la bonne façon de raisonner.
Allez, bah expliquez-nous alors, docteur.
Je m'excuse. Oui,
Ah, pas de
parce que
souci, au
non,
contraire.
l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral, c'est multifactoriel. C'est vraiment un ensemble de facteurs qui, à un moment donné, chez une personne donnée, sont ensemble et provoquent la catastrophe. Alors, il y a des facteurs de mode de vie d'un côté, et il y a des facteurs de prédisposition génétique. Voilà. Et c'est quand ils se rencontrent chez une personne donnée que se passe l'événement cardiovasculaire.
Donc, quels sont ces différents marqueurs ?
Le mode de vie est aussi important que les facteurs génétiques. Alors, nous, comment on procède ? Ben, c'est simple, hein. On explore les deux aspects toujours chez les gens qui s'adressent à nous, hein. Donc, il y a l'aspect mode de vie que je vais laisser de côté, et puis il y a l'aspect génétique. Alors, une prédisposition génétique, c'est pas simple, hein. Il faut commencer par faire un arbre généalogique. Vous voyez, vous me dites, mon papa a fait un infarctus à 45 ans. Bien, très généralement, il y a dans cette famille une prédisposition génétique, à moins que ce papa, il ait un mode de vie complètement aberrant, il fume 3 paquets par jour, il est diabétique.
Ouais, il travaillait trop, je pense. Enfin, il travaillait de 5h du matin jusqu'à 20h. Est-ce que ça, c'est un facteur qui fait que potentiellement, c'est excessif ?
Alors,
c'est ça que j'aimerais bien qu'on détermine, c'est parce que c'est tellement difficile de parler de génétique quand on sait aussi qu'il y a un mode de vie, mais qu'est-ce qui correspond à un mode de vie à risque ?
Trop travailler, ça n'a jamais rendu malade, sauf si c'est un travail toxique. Vous voyez, c'est vieux comme le monde, le travail, c'est la santé. Non, ça.
Okay.
Par contre, si vous êtes dans des conditions professionnelles épouvantables, ça existe, ça, nous, les gens, nous le racontent. Hein, et je ne sais pas, vous pouvez avoir un employé ou des employés qui sont harcelés par leur direction, par leur patron. Vous voyez, c'est pas le fait qu'on travaille beaucoup, c'est le fait qu'on soit harcelé. Mais inversement, vous avez des petits patrons qui sont harcelés par leur syndicat. Et le petit patron, il se paye pas lui-même, il arrive à payer ses ouvriers, et en plus, on vient constamment l'emmerder, si je puis dire. Vous voyez, c'est dans tous les sens.
Je pense que ce qu'évoque Alexandre, c'est peut-être le facteur stress qui pourrait avoir un impact sur qui pourrait jouer sur l'hypertension artérielle. Ça, on est d'accord quand même que ce serait un marqueur intéressant à venir. Je vois qui essaie de la tête, donc ça me réjouit d'avance.
Non, le stress, c'est certainement pas un facteur de risque. Le stress, c'est la vie. Vous voyez que quoi que vous fassiez, quel que soit le métier, votre mode de vie, vous êtes sans cesse soumis à toutes sortes de stimulations que vous pouvez appeler stress. Il faut faire la différence, c'est très bien expliqué dans le livre du docteur Delorgeril, entre ce qui est le stress, c'est-à-dire la vie. Comme je l'expliquais, vous ne pouvez pas vivre sans stress, ça n'existe pas. Courir après votre tram, ou après votre bus, ou conduire sur une autoroute, ce sont des moments stressants. Il faut faire la différence entre le stress, qui a été décrit d'ailleurs par un Canadien qui est vraiment un type formidable, hein, et qui a montré tous les facteurs hormonaux, et la souffrance. Ce sont deux choses complètement différentes. La souffrance, vous voyez, nous, on le fait sortir, souvent nos patients, ils n'en ont pas conscience. Vous voyez, si vous êtes un aidant avec quelqu'un chez vous qui fait un Alzheimer précoce, vous voyez, que vous pouvez pas quitter, là votre vie est bouleversée, là votre liberté est entamée et c'est du 100%. Vous voyez, c'est pas du stress, non, c'est une contrainte qui bouleverse votre vie. Et on le sait, les aidants, c'est le prototype de la souffrance. Mais vous avez d'autres choses, hein. Vous avez, dans une famille, hein, quand vous avez un autiste sévère, là, la vie de la famille est bouleversée aussi, vous voyez, et vous pouvez pas vous en débarrasser, hein. Il faut faire avec. Alors, je vous ai expliqué la souffrance professionnelle, hein, des gens qui ont des contraintes telles qu'ils sont au bord du suicide. Vous voyez, un éleveur aujourd'hui à qui on veut dire on va tuer tes 50 vaches, là, alors c'est brutal, vous voyez, mais si ça s'étale dans le temps, c'est une souffrance. Attendez, là, ce qu'on lui fait, c'est épouvantable. Bon, alors il y a toutes sortes de souffrances professionnelles, familiales, etc. Et ça, il faut le repérer, mais ça, c'est vraiment dans la catégorie mode de vie, conditions d'existence. Et donc, si je reviens à la génétique, là, quand quelqu'un fait un infarctus à 45 ans, presque toujours, il y a un facteur génétique. Donc, évidemment, il faut faire de l'arbre généalogique, parce que c'est pas avec un individu que vous allez construire un arbre généalogique. Hein. Ce monsieur, il a des frères et sœurs, ce monsieur, il a des parents, papa, maman, il a des grands-parents, il a des oncles et des tantes, il a des enfants, etc. Et donc, vous construisez l'arbre généalogique, ça prend du temps, vous voyez. C'est pas avec une visite chez le médecin de 15 minutes que vous faites parler quelqu'un. Quelquefois, les gens vous disent « Ah, mon père, il est mort brusquement, on a dit que c'était ceci ou cela. » Non, attendez, là, on se calme, expliquez-moi ce qui s'est passé. Eh ben, il était pas bien au dîner, puis il est allé se coucher, puis quand ma mère est allée se coucher, ben, il était mort. Ouais, ben ça s'appelle une mort subite, hein, un décès sans témoin. Mort subite, et la mort subite, c'est toujours un infarctus. 99% des cas, c'est un infarctus. Et un infarctus, qu'est-ce que c'est? C'est une thrombose dans une artère coronaire. Vous voyez? Et donc, quand vous faites expliquer aux gens les circonstances dans lesquelles tel ou tel parent a eu tel ou tel accident, alors vous faites ressortir réellement les facteurs qui favorisent les accidents cardiovasculaires.
Justement, si je veux faire un arbre généalogique, par exemple, mon papa, bon, j'ai compris que c'était peut-être à risque, et je descends et je vois par exemple un infarctus à 75 ans de ma grand-mère qui a eu un mode de vie assez classique, normal, qui n'a pas eu d'excès, qui n'a jamais fumé. Est-ce à partir de quel âge on peut se dire que c'est génétique ou pas génétique, de façon à ce que les gens puissent se dire « Ah ben là, peut-être que j'ai un terrain favorable à avoir ce type de pathologie. » Est-ce que vous pouvez nous donner justement ça?
Oui. J'espère qu'on verra des solutions après. Hein.
Oui, on va les voir à la fin, bien sûr.
Oui, mais notre temps est limité. Hein.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on avance.
Vous avez conscience de ça. Donc, alors ça, évidemment, ça devient très professionnel, vos questions. C'est-à-dire, quand vous avez une personne ou une famille qui s'adresse à nous, alors on construit l'arbre généalogique, et puis les différents étages de cet arbre généalogique parlent de manière différente parce que tout le monde n'a pas, si vous voulez, les mêmes parents. Vous voyez, quelquefois, il y a papa, il y a maman, il y a les grands-parents, etc. Alors, quelquefois, vous n'avez pas d'explication claire. Vous voyez simplement, par exemple, un infarctus à 45 ans. Alors, très, très franchement, je parierais pour un facteur génétique. Oui, mais tous les facteurs génétiques ne sont pas les mêmes. Vous voyez. C'est là qu'il faut aller gratter un peu plus. Alors la personne de 75 ans, même chose, vous voyez, parce que les facteurs génétiques, ils ne jouent pas tout seuls. Il y a aussi des facteurs de mode de vie qui viennent se coaguler, si je puis dire, hein, sur les facteurs génétiques. Et vous pouvez avoir des gens qui, alors vous dites, ils travaillaient beaucoup, mais s'ils travaillaient beaucoup, ils avaient peut-être d'autres aspects de son mode de vie, notamment la nutrition, notamment l'exercice physique, etc., qui n'étaient pas tout à fait adéquates. Alors que la grand-mère, elle était tranquille à la maison, elle faisait son petit dîner, son déjeuner, vous voyez. Et donc, elle a peut-être su, sans le savoir, se protéger. Donc, il y a un moment ou un autre où, pour préciser les choses, il faut faire une prise de sang, et aller vérifier un certain nombre de paramètres. Et en fonction du paramètre identifié, eh ben, on n'aura pas la même solution.
Mais qu'est-ce qu'on va chercher justement dans cette prise de sang? Parce que vous parlez justement de prédisposition dans le livre à l'hypercoagulation. Vous parlez aussi de la mutation du facteur 5. Enfin, il y a beaucoup d'éléments dont vous exposez dans le livre. Est-ce qu'on pourrait faire un petit résumé? Bien sûr, c'est expliqué dans le livre que j'ai montré tout à l'heure, beaucoup plus en profondeur. Mais c'est juste pour orienter et intéresser aussi les gens sur ces sujets-là, parce qu'on en a très peu conscience. Nous, je pense que 90% des gens associent problèmes cardiovasculaires au cholestérol. Et justement, de parler de ces autres éléments, de nous donner des pistes, ça peut permettre aux auditeurs derrière d'aller faire des recherches. Et on sait très bien que ça sera beaucoup plus approfondi dans votre livre. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être donner des pistes de tout ça à nos auditeurs, s'il vous plaît?
Les principaux paramètres. Voilà, on est face à un problème. Parce que moi, j'étais chercheur CNRS, et donc laboratoire, et donc quand on cherche quelque chose, ben on met au point une technique, on demande à un ingénieur, un technicien, mets-moi au point cette technique, etc. Ou bien on va acheter en Amérique ou au Japon des kits de dosage pour faire des choses rares. Oui, mais là, en cardiologie de ville, vous pouvez pas, c'est impossible, hein, vous n'êtes pas au CNRS. Et donc, dans ce cas-là, il faut s'adresser au laboratoire de ville. Et donc, il faut faire avec, si je puis dire. Mais le laboratoire de ville aujourd'hui, contrairement au CHU, fait des propositions intéressantes. Alors, je vais vous les énumérer, mais le principal paramètre qui est parlant pour nous, c'est ce qu'on appelle la lipoprotéine petit a. Vous voyez ? Et alors là, à nouveau, on se retrouve avec de la lipoprotéine, mais c'est pas la lipoprotéine. On l'appelle comme ça, mais en fait, c'est une apoprotéine, c'est une protéine. Mais c'est vrai qu'elle est collée, elle vient se coller à une lipoprotéine, et par conséquent, on l'appelle comme ça. Mais en fait, c'est une apoprotéine, c'est une protéine qu'on appelle petit a, et Dieu sait pourquoi.
C'est un lipide alors ?
Comment ?
C'est un lipide alors ?
Non, c'est pas un lipide, justement pas. J'ai bien insisté, hein. C'est une protéine, mais c'est vrai qu'elle est très souvent associée à une lipoprotéine, mais une lipoprotéine, c'est pas un lipide, hein. C'est un sac avec des apoprotéines qui constituent la structure du sac, et dans le sac, on trouve les lipides, c'est-à-dire les acides gras, les phospholipides, les vitamines liposolubles, etc., tout ce qui se transporte dans le sang, mais qui est hydrophobe et qu'on ne peut pas laisser en liberté. Ok, donc la lipoprotéine petit a, voilà, ça c'est vraiment... Alors, nous, dans nos travaux scientifiques, hein, on a mesuré la lipoprotéine petit a depuis les années 80. Vous voyez, quand je suis arrivé à Lyon, tout de suite, j'ai obtenu du CHU de Lyon qui me mesure la lipoprotéine petit a. Et ça a été extrêmement intéressant. Bon, mais aujourd'hui, donc, vous voyez, 86, 2025, vous voyez l'espace-temps, eh bien, il y a la majorité des cardiologues qui ignorent encore ce qu'est la lipoprotéine petit a. Et pourtant, certains l'ont compris dans les laboratoires de biochimie, puisque ça se mesure, c'est dans la nomenclature de presque tous les laboratoires de ville.
Elle augmenterait le risque de coagulation et les dépôts calciques, c'est ça, quand elle, si elle augmente, c'est ce qu'elle entraîne.
Voilà, c'est vraiment un facteur de prédisposition aux thromboses, et si ça favorise les thromboses, ça favorise les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Mais ça fait pas que ça, ça abîme aussi la valve aortique, hein, la sortie du cœur juste avant l'aorte, il y a une valve aortique, et là, tout le monde l'a vu, hein, c'est souvent la lipoprotéine petit a élevée. Alors, il y a élevé et élevé. Hein,
voilà, il y a une valeur pour nos auditeurs. Est-ce qu'il y a une valeur, un repère qu'on pourrait leur donner pour s'inquiéter, pas s'inquiéter ?
C'est le laboratoire qui donne la valeur. En général, tout dépend de l'unité, tout dépend du kit de mesure, etc. Donc, c'est pas la peine que je vous donne un chiffre particulier. Il faut bien savoir, hein, que on peut avoir 100 comme 1000. Et généralement, quand on a 1000, je veux dire, le risque est élevé. Hein, à 45 ans, ça a parlé déjà. Mais ça peut parler aussi quand on a 100. Pourquoi ? Parce que il peut y avoir d'autres facteurs associés à celui-là. Il y a le mode de vie, bien sûr, mais d'autres facteurs génétiques. Alors, je vous l'ai dit très vite, hein, le fibrinogène, l'antithrombine, la protéine C, la protéine S, l'albumine, par exemple, hein, l'albumine, c'est comme de l'aspirine, hein, c'est un antiplaquettaire, etc. Mais je pense pas que dans un podcast comme ça, ce soit intéressant de rentrer dans les détails. Alors, je vous ai dit là, la lipoprotéine petit a. Et alors, vous voyez, quand dans une famille, hein, quelqu'un fait un infarctus à 45 ans, bien sûr, il faut aller mesurer la lipoprotéine petit a. Oui, mais il y a aussi les descendants. Vous voyez, c'est important aussi pour les descendants de savoir si eux-mêmes, ils ont récupéré ce facteur.
Et j'en profite pour... vous savez, on a un partenariat avec un laboratoire qui fait des analyses de santé préventive. Et effectivement, c'est dedans. Je ne savais même pas à quoi ça correspondait. Parce que vous savez, des fois, quand vous avez des packs d'analyses de plein de choses différentes et alliées dedans, donc ça peut être assez intéressant pour les gens.
Voilà, parmi les facteurs génétiques, il y en a qui sont aussi associés à des facteurs nutritionnels très très importants. Si vous êtes déficitaire en certaines vitamines du groupe B, par exemple, vous allez avoir du mal à métaboliser vos acides aminés soufrés, hein, qui ont un soufre, hein, et le prototype, c'est l'homocystéine. Mais maintenant, les laboratoires de ville mesure l'homocystéine. Vous voyez, donc, à la fois, il y a des blocages incroyables du côté des académies, du côté des sociétés savantes, et puis de l'autre, il y a une avancée des laboratoires qui ont intégré ces paramètres de nomenclature.
Vous parlez aussi de l'effet négatif des anti-inflammatoires, de l'inhibition aussi de la pompe à protons. Est-ce que vous pouvez en parler pour les gens peut-être qui ont des traitements médicamenteux, notamment de la baisse de la vitamine B12 et l'impact que ça pourrait avoir? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Parce que c'est vrai que moi, en lisant votre livre, je me suis dit, bon, vitamine B, c'est important, vitamine K aussi, c'est important pour le cœur. Est-ce que c'est réducteur de penser comme ça ou pas?
Non.
Voilà. Non. Voilà, dites-nous, c'est pour ça, je me permets.
Alors, attention à la vitamine K, attention à la vitamine D. Les complémentations systématiques en vitamine D, par exemple, c'est associé à une augmentation du risque cardiovasculaire.
Ok.
Alors, c'est une vitamine, donc il ne faut pas être déficitaire, mais la manière dont l'industrie s'est emparée de ce paramètre pour vendre des compléments nutritionnels, c'est un business magnifique, la vitamine D, la D3, vous allez à la pharmacie, vous savez.
Mais après, monsieur Delorgeril, juste pour vous interrompre par rapport à ça, moi je vis à Marseille, dans le sud de la France, je vis beaucoup dehors. Je m'étais fait tester justement ma vitamine D en labo et j'étais déficitaire. Donc est-ce que vraiment la population, est-ce que le risque n'est pas plus sur 90% des gens qui sont en sous-vitamine D versus l'excès dont vous parlez, qui est quand même très très rare, je pense, dans la population française?
La vitamine D, comme vous le savez, c'est le métabolisme du calcium. Hein, et si vous n'avez pas assez de vitamine D, autrefois c'était le cas, alors c'est le rachitisme. Hein, c'est vraiment bien caractérisé. Maintenant, on a fait des progrès, on sait qu'il ne faut pas être déficitaire en vitamine D, mais la façon dont c'est mesuré dans les laboratoires n'est pas valable. Pourquoi? Parce que la vitamine D est transportée par une protéine, je ne rentre pas dans les détails, et en fait, au laboratoire, on va simplement vous mesurer la forme libre. Mais la forme libre n'est pas représentative d'un véritable déficit. Donc c'est pas bon. En général, si vous avez une alimentation méditerranéenne telle qu'on la préconise...
On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abats. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché Féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Alors, justement, on va peut-être en parler, de donner des solutions aux gens, notamment au niveau de la nutrition. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Phase 2, oui.
On n'aura pas le temps, mais...
Nous, on a le temps, monsieur Delorgeril, il n'y a pas de souci. Si vous voulez juste nous donner quelques pistes pour le mode de vie, parce que vous parlez de l'importance.
Appelle le docteur, il va rester un peu plus...
D'accord, mais oui, on ne peut pas faire 10 minutes sur la diète méditerranéenne. Ce serait bâclé. Non, voilà, donc la diète méditerranéenne, il y a des livres. Écoutez, c'est facile, hein, franchement, à Marseille en plus, franchement, voilà. Et donc, avec une alimentation méditerranéenne, on va dire, conventionnelle, hein, sans faire des excès en quoi que ce soit, vous avez votre vitamine D, vous avez tout ce qu'il faut, vous voyez. Il faut vraiment être sous-nutri, malnutri, pour avoir de véritables déficiences dans les principales vitamines. Alors évidemment, vous voyez, je prends un exemple, parce que rien ne doit être systématique. Vous voyez, si vous avez peur des maladies cardiovasculaires, des cancers, et que vous décidez d'être végétarien, ou si vous êtes végétarien pour des raisons idéologiques, vous ne voulez pas la souffrance des animaux, vous voulez blablabla, etc. Bon, là, à tous les coups, vous serez déficitaire en B12. Ouais. Alors, si vous adoptez un régime keto, vous voyez, et que strict, vous voyez, alors plus de céréales. Ah, là, vous allez manquer de B6. Oui. Mais non, nous, on a des patients, c'est incroyable la variation des gens dans une population donnée. Il y a des gens qui nous disent, moi, docteur, je ne peux pas manger des aliments qui ont la couleur verte. D'autres, ça sera la couleur rouge. D'autres, ça sera la couleur orange. Vous voyez, il y a des gens qui sont bizarres. Hein, c'est comme ça. Oui, mais si vous avez, vous voulez pas la couleur verte, ça veut dire que vous n'avez pas de feuilles. Et ça veut dire que vous n'avez pas de folate. Feuilles,
B9.
Hein, et donc, vous êtes déficitaire en B9. On en voit, vous voyez. Donc, il y a tellement de cas particuliers qu'à un moment donné, sans parler de tous les micronutriments, ouais, le sélénium, le cuivre, le zinc, etc. Donc, c'est impossible de tout vérifier et c'est impossible de supplémenter chaque individu avec tout ce dont il a besoin. Et donc, nous, on est arrivé à la conclusion et on a montré qu'on avait raison, si je puis dire, et je vais vous raconter quelque chose sur la diète méditerranéenne. On a montré que si vous mangez selon les principes méditerranéens, avec des aliments de qualité, attention, il faut des aliments de qualité, alors vous ne manquez de rien, sauf, évidemment, si vous êtes allergique à l'œuf, vous allez avoir plus de problèmes pour avoir un certain nombre de nutriments, notamment des protéines. Vous voyez, si vous supportez pas l'odeur du poisson, ah, vous avez un grave inconvénient, parce que le poisson, ça apporte la vitamine D, ça apporte les oméga 3, ça apporte du sélénium, vous voyez, ça a des très bonnes protéines. Donc, vous voyez, la Méditerranée, c'est pas de l'eau, hein, c'est de l'eau, c'est de l'eau salée, si je puis dire. Donc, je vais vous raconter juste une anecdote, et puis après, on s'arrêtera peut-être, parce que je me fatigue. Mais et puis pour répondre à vos questions, parce que vous êtes fin quand même, hein, vous posez des très bonnes questions, je vous en félicite. Mais quand on a sorti nos premiers résultats avec la diète méditerranéenne, ouais, la réaction de la communauté médicale et scientifique, ça a été d'un côté ceux qui disaient ah on l'a toujours dit, c'est normal, c'est voilà, et puis il y a ceux qui ont dit comment ça, c'est impossible, c'est un régime qui ne diminue pas le cholestérol, c'est pas possible. Voilà, vous voyez, la pensée des gens. Allez. Et c'est vrai, nous, nos groupes méditerranéens et le groupe à régime cholestérol abaissé, ben, ils avaient grosso modo le même cholestérol. Mais la différence de risque était de 70%. Vous voyez, et dans notre groupe méditerranéen, tout le monde n'était pas parfait. Hein, voilà. À l'époque, on mesurait déjà la lipoprotéine petit a, hein, et tous les jeunes, ils avaient une LP petit a augmentée. Et puis les troisièmes, c'était ceux qui disaient bon, c'est trop beau pour être vrai. Bon, ça, on publie en 94 et en 99 l'étude finale. Oui, mais depuis, donc 25 ans, il y a eu des dizaines et des dizaines d'études qui ont complètement confirmé ce qu'on avait montré. Vous voyez, et la plupart des centres de réadaptation post-infarctus aujourd'hui, s'il y a des gens à peu près compétents, ils disent à leurs patients, mais sans les bonnes techniques pour les instruire, ils leur disent qu'il faut manger méditerranéen. Vous voyez, donc c'est complètement confirmé. Et on n'a pas besoin de compléments nutritionnels, en principe.
Va manger forcément varié, équilibré, de saison, bio aussi, pour avoir suffisamment d'antioxydants dans l'alimentation. Et quels seraient les anti-conseils parce qu'au final, éviter les huiles végétales transformées, je suppose.
Non, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu trop compliqué. Mais quand vous dites varié, équilibré, bio, varié, ça c'est sûr. Le régime méditerranéen, c'est de la gastronomie. Vous voyez, on n'est pas végétarien, on se prive de rien, on boit du vin, on mange des œufs, on mange de la viande. Vous voyez, regardez un Italien, mais ouais, attendez, là, ils sont parmesan, et puis ils sont jambon de Parme, etc. Vous voyez, bon, tout ça, c'est un équilibre général qui fait les bienfaits de ce type d'alimentation. Et vous voyez, vous dites des antioxydants, j'en fais pas une priorité. Vous voyez, quelle est l'huile qui apporte le plus de vitamine E, c'est-à-dire la vitamine antioxydante?
L'huile d'olive.
Non, ce sont justement les huiles qui sont riches en oméga 6 polyinsaturés, c'est-à-dire le tournesol, maïs. qui sont complètement déconseillés. Pourquoi? Parce que la nature est bien faite. Si vous avez un acide gras fragile dans une graine ou dans une huile, alors vous avez l'antioxydant qui vient avec. L'huile d'olive, c'est une huile remarquablement résistante. Donc, il y a peu de vitamine E dans l'huile d'olive, paradoxalement. Vous voyez. Mais en fait, vous avez besoin d'huile d'olive, de vitamine E pour protéger certains acides gras. Je donne un exemple, les oméga-3, parce que les oméga-3, ils sont absolument indispensables. Vous voyez, ceux qu'on trouve dans les poissons, mais ceux aussi qu'on trouve dans les noix, dans l'huile de soja, dans l'huile de colza. Et ceux-là, ils sont extrêmement fragiles, donc il faut les protéger. Et ce sont les vitamines antioxydantes qui les protègent. Pas seulement, parce que c'est l'oxydation, l'antioxydation, vous savez, c'est une chaîne. Dès que vous touchez d'un côté, vous déséquilibrez de l'autre. Donc nous, on n'est pas trop pour les... D'ailleurs, c'est alors qu'il y avait eu toute une théorie oxydative de l'athérosclérose, ça a été abandonné, parce qu'on a fait des grandes études avec des supplémentations en antioxydants. Alors on a eu la vitamine E, on a eu le bêta-carotène, on a eu le sélénium, j'en passe et des meilleurs, soit isolés, soit en cocktail. C'est des échecs systématiques. Des échecs totaux. Vous voyez, ça n'a pas marché pour la prévention cardiovasculaire.
Tout à l'heure, je vous avais parlé de la prise de tension artérielle comme marqueur potentiel de facteur de risque.
Non, moi, je n'ai pas dit ça.
Non, mais moi, je vous en ai parlé. D'accord. Et vous avez pas repris. Quel est votre positionnement là-dessus, sur cette histoire de pression artérielle?
Alors, la pression artérielle, elle soulève une multitude de problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a une industrie extrêmement agressive qui veut absolument que l'on prescrive des médicaments anti-hypertensifs. Mais c'est du même niveau que les médicaments anti-cholestérol. Donc, tout ce qui vient de l'industrie, ça vaut rien. Parce que
moi, je cherche des solutions pour Alexandre, qui souhaite pouvoir dépister un facteur de risque potentiel. Donc, je vous laisse finir pour l'hypertension, pardon.
Oui, alors, il y a le premier problème, c'est les conflits d'intérêts, c'est-à-dire que ce qui est raconté par l'industrie ou par les amis de l'industrie, les complices, hein, si je puis dire, ça vaut rien. Le deuxième problème, c'est la façon dont c'est mesuré. Alors, il y a trois je vais aller très vite. Hein. Il y a trois façons de mesurer la pression artérielle avec un brassard. Hein. Alors nous, en cardiologie, autrefois, mais plus maintenant, on n'a pas le temps parce que tout le monde est toujours pressé dans les salles de cathétérisme.
Non, mais avec un brassard électronique maintenant, c'est assez facile maintenant.
Non. C'est les montres, les brassards. Non. Rien ne vaut une mesure avec un stéthoscope. Bon, peu importe. Si vous voulez mesurer votre pression avec une méthode particulière, sachez une chose. Quel que soit l'appareil, soit vous le mesurez au cabinet du médecin, et ça vaut rien, parce qu'il suffit de rentrer dans le cabinet du médecin pour avoir la pression qui monte. Évidemment, vous êtes stressé, la dernière visite, le médecin vous a dit « si la prochaine fois, vous avez encore 14 ou 15, alors je vous donnerai un médicament ». Alors, vous avez un médicament, quand vous rentrez là, vous avez la pression qui monte. Bon, ça c'est pas bon du tout. Alors, on a eu conscience de ça, c'est le fameux phénomène de blouse blanche, quand les médecins avaient des blouses blanches dans leur cabinet. Bon. Après, il y a l'auto-mesure, c'est-à-dire je suis chez moi et je me mesure ma pression artérielle. Et
là, trois prises, trois fois par jour, pendant trois jours.
Oui, mais ça vaut rien. Ça vaut rien. Je sais, les médecins disent, il y a la blouse blanche, donc vous allez la mesurer chez vous. Mais vous avez exactement le même phénomène. Alors, ça dépend de votre émotivité, de toutes sortes de paramètres, etc. À quelle heure vous la prenez, le matin en me levant ou le soir en me couchant, peu importe. Là, on sait que ce sont des mesures fausses, c'est-à-dire toujours plus hautes que réelles. Et pourquoi on le sait? Parce que la troisième méthode, c'est la bonne. La troisième méthode, c'est la mesure automatique de la pression artérielle indépendante d'un médecin ou même de la personne où on la mesure. Ça s'appelle la MAPA, mesure ambulatoire de la pression artérielle. Vous allez à la clinique cardiologique, on vous installe un brassard, une petite boîte, qui va gonfler le brassard et qui va mesurer la pression artérielle par surprise. Et notamment pendant toute la nuit, toutes les 20 minutes pendant la nuit. Ça peut vous réveiller, peu importe. Mais vous rendormez après. Mais vous avez des mesures précises de votre pression artérielle. Le chiffre en lui-même, il n'est pas important. Parce que la pression artérielle, ce qu'elle nous indique, c'est l'état de notre système nerveux autonome. C'est expliqué dans le livre. Et c'est ça qui est important. La pression artérielle, franchement, hein, quand on vous dit il faut être inférieur à 12,6 ou à 12,8 ou inférieur à 13,7 ou à 14,8, pensez-vous que ça puisse avoir un effet quelconque? Imaginez une seconde. Si vous battez à 60 par minute, toutes les secondes, vous avez pam dans vos artères. Pam. Pam. Toutes les secondes, même avant la naissance. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est un système qui est automatiquement agressif et automatiquement, que vous ayez 12, 13, 14 ou 15, vous abîmez votre artère. Et votre artère ne cesse pas de cicatriser, de se reconstituer. C'est ça l'origine des plaques d'athérosclérose. C'est quand le phénomène de guérison des blessures dues au stress, et ce n'est pas le chiffre de pression qui compte, c'est que une fois par seconde, toute votre vie, vous imaginez que la bordure, la plaque, enfin, la membrane interne de votre artère, elle est monocellulaire, c'est l'endothélium. Juste une couche de cellules. Imaginez ce que ces cellules supportent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et imaginez les turbulences au niveau des carrefours. Vous voyez? Ça abîme. Vous vous abîmez. De la même manière, regardez ma tête. Moi, je suis abîmé, c'est l'âge. Oui, mais mes artères aussi sont abîmées. Tout s'abîme.
Ça va quand même à l'encontre de beaucoup de données de cardiologie et de médecine vasculaire. La prise de la tension artérielle, c'est quand même une donnée très bien étudiée comme étant un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Je ne vois pas trop comment vous positionner par rapport à ça, comment se situer.
Non, je suis navré. Quand on regarde bien les données existantes, on laisse de côté tout ce qui est business, toutes les études qui sont conduites par des industriels. Alors, vous voyez des phénomènes tout à fait évidents. Si vous allez sur mon blog, michel.delorgerine.info.
On mettra en description. Oui, on mettra les livres en description ainsi que votre blog.
Voilà. Je sors aussi deux vidéos par semaine pour expliquer toutes ces choses et je réponds aux questions aux gens, etc. Je vous donnerai l'adresse de la chaîne vidéo. Il faut un abonnement, bien sûr, parce qu'à
oui, bien sûr.
À deux par semaine, vous imaginez qu'il y a derrière beaucoup de travail. Mais le médecin, le complice de l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il y a une relation linéaire entre le risque cardiovasculaire et la pression artérielle. Et c'est faux. Vous savez, les relations linéaires, en médecine, ça n'existe pas. Ce sont toujours des courbes. La véritable relation entre la pression artérielle, qu'elle soit la systolique ou la diastolique, quand vous prenez les bonnes études, c'est une courbe en J. Trop bas, c'est pas bon. Trop haut, c'est pas bon. Ah non, si vous vivez avec 20 de pression artérielle, 200 mm de mercure, c'est sûr que vous êtes malade quelque part. C'est pas le chiffre en lui-même qui est, c'est la cause. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Vous voyez? Alors, ça peut être une sténose de l'artère rénale, ça peut être une tumeur de la surrénale. Bon, je rentre pas dans les détails, vous voyez, mais une courbe en J, vous voyez. Ah, vous pouvez faire une droite, hein, si vous voulez. Le programme statistique qui va vous dire oui, ça marche, c'est de la droite. Oui, mais vous voyez, trop bas, c'est pas bon, trop haut, c'est pas bon. Et entre les deux, c'est neutre. Vous voyez? Donc, moi, je dirais que et j'ai mis les courbes sur le J'ai entendu sonner.
C'est bon, vous inquiétez pas, c'est rien. C'est la magie du direct.
Non, c'est l'heure de la récréation. C'est de...
Ah non, non, pas pour nous, pas pour nous.
Pour moi, si.
Ça va arriver, vous inquiétez pas, monsieur de Langerie.
Et donc, c'est neutre, grosso modo. Voilà. Il faut pas être en dessous de 130 quand on a un certain âge. C'est comme le cholestérol. Il augmente avec l'âge, c'est normal. Voilà. Mais la pression artérielle, ça augmente avec l'âge. J'ai mis les chiffres d'une énorme étude américaine sur 450 000 personnes suivies pendant 10 ans. Ils ont mesuré la pression artérielle et ils ont regardé qui était mort et qui n'était pas mort sur les 10 années qui ont suivi. C'est incroyable de voir ça. Il y a plus de morts dans les pressions basses que dans les pressions hautes. Et chez les gens qui ont, on va dire, plus de 75 ans, c'est fabuleux, jusqu'à 17 de pression artérielle, il y a une diminution du risque. Et c'est pas moi qui le dis, du risque de décéder. Vous voyez, c'est pas une idée de, il y a de l'athérosclérose, il y a l'infarctus. Non, décès.
Écoutez, et juste pour conclure peut-être ce podcast, on a parlé beaucoup du mode de vie, mais sans trop l'explorer. Quelles seraient juste quatre pistes pour justement prévenir ces différentes pathologies? Où vous mettez, on va avoir un classement, je sais que c'est difficile, mais bon, c'est vrai qu'on aime bien ça maintenant. Où vous mettez la nutrition, l'importance de la nutrition, de l'activité physique, du sommeil par exemple, et aussi du tabac, qui, vous en parlez justement des facteurs de risque, hein, vous dites tabac en numéro 1, diabète, hypertension artérielle, obésité, sédentarité, souffrance professionnelle. En gros, c'est ça dans l'ordre, si je ne me trompe pas, ce que vous mettez dans le livre. Mais au niveau du mode de vie, si on veut être un petit peu actif sur de la prévention.
Tout ce que vous venez de dire, c'est du mode de vie.
La pression, oui, justement, concrètement, ça veut dire quoi en termes de mode de vie? À quoi on fait attention?
Alors, les aspects mode de vie, alors je laisse de côté les conditions d'existence, hein, c'est les souffrances. J'ai parlé professionnel, familial, conjugal, attendez, ce que les gens me racontent. De ce qui se passe dans les couples, c'est épouvantable comme les gens peuvent être méchants entre eux. C'est bon, ok. Alors, une fois qu'on enlève le tabac, pratiquement nous, tous les patients qu'on voit maintenant, c'est fini le tabac. C'est vraiment peut-être un sur 100 qui continue à fumer. Tous les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, c'est plus des fumeurs. Ça, c'est un gain absolument fabuleux du 21e siècle. Ça, c'est vraiment, on a fait des progrès là-dessus. Donc, les deux, et si je laisse de côté aussi les souffrances, les deux facteurs majeurs, hein, c'est la nutrition et l'activité physique. Voilà. Okay. Alors après, la nutrition, c'est facile, c'est la diète méditerranéenne. La diète méditerranéenne, vue comme une gastronomie. Vous voyez, en ce moment, il y a des attaques contre les boissons alcoolisées, contre le vin, vous voyez, les gens vont raconter des idioties comme le petit verre de vin rouge qui soi-disant protégeait le cœur, c'est pas vrai, c'est faux, etc. Mais attendez, le French paradoxe qui n'existerait pas ou qui n'existerait plus, attendez, on a réanalyser les données récemment, je les ai mises dans un livre que vous avez.
Je l'ai là. C'est votre livre sur poison ou élixir de longue vie, la vérité sur le vin. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez faire un épisode sur ce sujet-là. Vous nous mettrez ça en commentaire et ça sera avec plaisir qu'on recevra monsieur Delorgerie.
Mais oui, bien sûr, parce que s'il faut voir les idioties qui sont racontées, mais par des gens qui comprennent rien, qui n'analysent pas les données existantes, voyez, dire qu'aujourd'hui.
Après, je me permets de vous interrompre, mais c'est vrai que ça paraît fou d'avoir le discours que vous avez et de jamais avoir eu un procès pour diffamation. C'est quand même, je trouve que du coup, ça donne quand même de la valeur à ce que vous dites et je tenais juste à le souligner pour quand même nos auditeurs parce que c'est vrai que souvent, les gens qui ont ce type de discours ont beaucoup de procès et quand on n'a pas de procès, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, je vous laisse interpréter de votre façon ce que
les avis. Vous constatez quand même que vous êtes à contre-courant. Après, moi, j'ai pas forcément d'avis sur tout ça, mais
oui, c'est pas notre champ d'expertise.
Vous êtes à contre-courant sur ce positionnement sur l'alcool. En tout cas, le vin pour le vin rouge. Je suppose que c'est sur tout ça. Et par exemple, sur la prise de tension artérielle, sur le cholestérol, l'utilisation des statines.
Non, Non, je ne suis pas à contre-courant du tout. Ce que je dis, d'autres le disent, mais on les censure, on nous censure. Vous voyez, c'est, si je disais des horreurs sur l'industrie pharmaceutique et les médicaments-là, j'aurais été traîné devant un tribunal. Mais non, les données existent, elles sont référencées. Ce n'est pas forcément moi qui les ai produites. Vous voyez.
Mais je sais.
Et être à contre-courant, vous voyez, pour moi, c'est quasiment satisfaisant parce que dans la recherche, je suis un chercheur, hein, CNRS, il n'y a pas de découverte, il n'y a pas de progrès sans innovation. Et l'innovation, ça veut dire que vous allez à l'encontre du conventionnel. Et si vous êtes dans le conventionnel, changez de métier, ne faites pas de la recherche, ne faites pas de la science, parce que vous ne produirez rien. Pour produire de l'innovation, forcément, vous allez déranger les idées, les idéologies les plus conventionnelles. Et évidemment, si le cardiologue du CHU de Montpellier ou de Toulouse ou de je ne sais pas où, pendant 30 ans a dit à ses internes, à ses chefs de clinique, à ses surveillantes, ses infirmières, tel patient, il doit avoir obligatoirement telle dose de statine, vous pensez bien que c'est pas lui qui, tout d'un coup, va dire « je m'excuse, je me suis trompé pendant 30 ans et je pense qu'il faut arrêter de prescrire ces médicaments ». Ils sont pieds et poings liés, comme avec le médiator.
Donc docteur, juste pour conclure, on avait dit donc la nutrition, activité physique, on s'est interrompu, donc juste finir sur ça, ce que vous conseillez. Et derrière aussi, qui voir ? Vous parlez de médecine de précision, justement, dans le livre. Comment on fait pour trouver un docteur qui correspond justement à votre vision pour nos auditeurs? Parce que bien sûr, ça remplacera jamais un podcast, une consultation médicale. Et faites-vous accompagner par la bonne personne. Donc aussi, dans un second temps, est-ce que vous pourrez donner des pistes à nos auditeurs, peut-être chez vous, peut-être chez quelqu'un d'autre? Mais voilà, juste donc le deuxième.
Oui. Alors, je vais d'abord parler de l'activité physique très très vite.
Voilà.
Alors, l'activité physique, souvent, c'est présenté comme plus vous en faites et mieux c'est. Vous voyez ? Non, là, il faut aller doucement, là, parce que, alors évidemment, pour vous qui êtes tout jeune, je vous dirais, faites bien ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais nous, les patients qu'on voit, ils sont souvent d'un certain âge. Et à partir d'un certain âge, il faut y aller doucement, il ne faut pas exagérer. Il y a vraiment maintenant de plus en plus d'études qui montrent que quand on fait trop de sport, c'est du sport là, c'est plus de l'activité physique, à partir d'un certain âge, on s'abîme.
Vous pouvez donner un seuil, comment on se positionne là ?
Ben non, il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil parce que vous pouvez, l'âge par exemple, c'est quelque chose, et chaque individu est un cas particulier. Il y a des gens qui sont vieux avant d'être jeunes. Inversement, il y a des gens qui, on dirait qu'ils ne vieillissent jamais. Ouais, ils ont 70 ans, vous dites qu'il a 50 ans, celui-là ou celle-là, etc. Donc, c'est vraiment ça, la médecine de précision, c'est que chaque individu est un cas particulier. Vous ne pouvez pas dire, à partir de telle pression, je donne un médicament. Ça, c'est une mauvaise idée. Vous ne pouvez pas dire, à partir de certain âge, je fais telle chose. Non, tout dépend de la personne. Tout dépend de l'ensemble, de ses conditions d'existence, de son mode de vie, de son arbre généalogique, ça fait beaucoup de paramètres. Et si vous mettez là-dedans la nutrition, imaginez, nous on a quelqu'un qui travaille à 100% sur la nutrition de nos patients, hein, parce que quand vous voulez aider quelqu'un, alors nous c'est toujours des malades, hein, c'est des gens qui ont eu un accident cardiovasculaire, bon, pour l'aider, il faut d'abord savoir où il en est. Et donc, il faut savoir d'abord quelles sont les habitudes alimentaires de cette personne, donc les étudier. Ça, c'est pas en 5 minutes, hein. Ça nécessite un travail de la part de la personne, noter tout ce qu'il mange, midi, matin, midi, soir, qualité, quantité. On envoie ça à l'ordinateur. L'ordinateur rend un. Ouais. Donc, c'est tout un travail. Et ensuite, on bouleverse pas la vie des gens. On adapte. Vous voyez, on corrige les grosses erreurs. Mais vous voyez. Attendez, là, si vous êtes avec un Gallois ou un Écossais, c'est pas la même chose que d'être avec un Maghrébin ou un Sicilien. Oui, donc il faut s'adapter à les conditions, le passé de chaque personne, la famille.
Ok. Et donc pour trouver une médecine qui ressemble justement à celle que vous préconisez, de précision comme vous la qualifiez, où c'est qu'on pourrait trouver Est-ce qu'il y a des formes ?
Non, il n'y a pas de source.
n'y a pas de sourcil. Il n'y a pas une spécificité, il n'y a pas une spécialité, il n'y a pas une formation particulière.
Cette idée de la médecine de précision, je l'ai mise dans un livre, mais ça n'a pas encore pénétré les cerveaux. Vous voyez, on vient là en très peu de temps, ça fait une heure et demie, mais on a fait un très très bon travail. Vous avez vraiment eu des très très bonnes questions. Je pense que les gens qui verront ce podcast, ils vont comprendre que la façon dont la médecine est pratiquée aujourd'hui est totalement inadéquate. Alors moi, là, c'est pour le cardiovasculaire, la nutrition. Oui, mais vous voyez, dans les cancers, et l'Alzheimer et plein d'autres circonstances, je suppose que les experts en la matière pourraient tenir des discours un peu comparables. Vous voyez, mais il faudra... Oui, la LP petit a, je la mesure en 1986, et maintenant, en 2026, dans quelques jours, les CHU ne mesurent toujours pas. Donc, vous voyez, la latence dans nos sociétés. Vous voyez, à côté de ça, on va mesurer le cholestérol quasiment toutes les semaines chez des millions de gens, et ça sert à rien. Et à côté de ça, on va prescrire des médicaments pour baisser la pression artérielle chez des millions de gens, alors que ça va les fatiguer, ça va les rendre impuissants, et ça ne sert à rien. Quelquefois, ça peut servir. Quelquefois, il y a des circonstances particulières. Bon.
Et la question que je me pose, comment ça se fait que vous n'ayez pas créé un DU pour pouvoir enseigner ça à d'autres de vos confrères et d'avoir pu aussi... Il y a tellement de données et de data que vous détenez, tellement d'ouvrages que vous avez publiés. Il y aurait matière quand même à créer un parcours universitaire pour qu'il y ait un réseau de cardiologues qui sont formés avec vous.
Non, ça ne vous intéresse pas.
Sa réponse.
Ça, avec le niveau académique actuel, le fonctionnement des hôpitaux en crise, allez dans une unité de cardiologie, vous allez voir ce qui se passe, tout le monde est pressé. Il y a une méconnaissance totale de la nutrition. Et ils n'ont pas le temps. Non seulement ils n'ont pas le temps de se former, mais ils n'ont pas le temps de lire. Et donc, ils se contentent bien souvent. Il y a certaines choses qu'ils font très très bien. Si vous faites un infarctus demain, que vous êtes pris par le SAMU, on va vous mener à l'hôpital, on va vous déboucher la coronaire. Et c'est miraculeux par rapport à ce que j'ai connu dans les années 70, 80, 90. Vous voyez, il y a des choses qui sont très très bien faites. C'est un accident de la route, l'ambulance qui va venir vous ramasser, c'est formidable par rapport à ce que j'ai connu dans les médecines d'urgence. Oui, mais là, dans tout ce qui prend du temps, tout ce qui prend de la culture générale et non pas de l'ingénierie, parce que celui qui va déboucher votre coronaire, et il a tout mon respect, c'est quasiment un ingénieur, c'est quelqu'un qui manipule des objets, des techniques, et qui va arrêter la coronaire, et puis après, on lui a dit, une fois que tu as fait ça, tu donnes tel médicament, et hop, il voit plus le patient, c'est fini, vous voyez. Mais là, s'occuper d'un patient pour essayer de prévenir les complications, ça prend tellement de temps que c'est infaisable, c'est pas la peine de faire un DU, il n'y aura personne, c'est moi, je...
Moi, je ne suis pas convaincu. Je suis même sûr que non. Si vous faites un DU, vous aurez des praticiens et vraiment pas que des cardiologues, hein, parce que ça peut intéresser des kinés, ça peut intéresser tout un tas de médecins de se former sur les pathologies vasculaires et sur le. Ça peut être le triage des patients ou.
Les pratiques actuelles sont telles que. Si vous allez à l'encontre de la façon dont ils pratiquent, vous allez avoir une telle hostilité. Voilà, moi, à mon âge, je ne vais pas aller affronter à nouveau la société de cardiologie, la société d'angiologie, les professeurs machin. Si j'arrive avec un programme de DU, vous n'ouvrez pas un diplôme universitaire ou interuniversitaire comme ça. Il faut qu'il y ait un consensus autour de vous, il faut qu'il y ait une demande. Si j'offre ça, Il faut que ça aille vers une demande. Il n'y a pas de demande. Donc,
s'il y a de la demande, mettez-nous en commentaire s'il y a de la demande pour un DU du docteur de Lorgeril. Comme ça, peut-être que ça l'incitera à transmettre encore plus de données et d'informations, même s'il en fait déjà énormément. Donc, un grand merci d'avoir été avec nous. Je pense qu'on va clôturer, on va vous libérer parce qu'après, vous allez avoir aussi de la souffrance professionnelle à cause de nous. Et c'est pas ce qu'on recherche. Merci beaucoup. En tout cas, on mettra tous vos liens en description. Donc, le blog, vos livres, les trois principaux. Vous nous mettez aussi, si vous voulez qu'on refasse un épisode sur le vin. C'est vrai que c'est une thématique qu'on avait essayé de faire ensemble, mais malheureusement, on n'aura pas du tout le temps aujourd'hui de le faire. Et on tenait aussi à vous remercier pour votre petite technique au début. C'est vrai qu'on a eu un peu de mal à se lancer avec Google Chrome, etc. Il y a eu un petit peu de gymnastique technologique. Donc, on tenait à vous remercier.
Mais il a gagné un pourcentage de compétences en informatique, le docteur, aujourd'hui.
Grâce à nous.
Je vais vous envoyer l'adresse de la chaîne vidéo.
Allez, super. On mettra tout ça en description.
Allez, parfait.
Il faut un abonnement, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent, c'est pas très cher, hein, je crois que c'est 19 euros, un truc comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, je raconte exactement ce qu'on vient de se dire là, hein, donc.
Ouais, bien sûr, mais ça leur donnera, je pense, envie de voir tout ça.
Je réponds aux questions.
Allez, super, magnifique. Merci beaucoup, et à très vite, peut-être pour un nouvel épisode.
Au revoir. Restez avec nous deux petites minutes après la coupure.